Bonjour tout le monde. Bon mardi matin, j'espère que vous allez bien. Eh ben la reprise se fait sûrement. Les coiffeurs, toutefois, se plaignent toujours qu'on leur impose un changement de blouse, de cap entre chaque client. Mais ils étaient quand même, on l'a vu, heureux de revoir un peu leur clientèle. Il y en a même qui ont commencé à sortir les ciseaux à partir de minuit hier soir pour bien montrer, en fait, la veille, là, minuit une, ça commençait déjà à couper les cheveux, paraît-il. Il y a les dentistes aussi, là, on l'a vu hier matin ensemble, qui doivent changer l'air de leur bureau à 99% avec des systèmes de ventilation spéciaux. Il y a les enfants dans les cours d'école qui jouent dans leur petit carré de ciment sans pouvoir s'approcher. C'est des règles sévères, effectivement. Puis il y en a qui commencent à dire, est-ce que ces règles-là sanitaires sont un peu trop sévères? Des gens regardent ce qui se passe ailleurs et ce matin, il y a un bon exemple. Il y a, entre autres, la levée des restrictions en France à partir du 2 juin. Donc, il y a pas mal de restrictions qui avaient été imposées jusque-là qui sont complètement laissé tomber. Entre autres, on a vu que les terrasses ont rouvert pour la clientèle, les cafés, les restaurants. Tout ce qui était fermé là, depuis à peu près 2 mois et demi, bien là, c'est rouvert. Il y a des conditions, bien sûr, mais c'est pas mal plus « lousse », entre guillemets, vous me permettrez l'expression, là-bas qu'ici. Ce qui fait que bien des gens, puis vous avez peut-être entendu ce restaurateur à l'émission de mon collègue Paul Arcand plus tôt de Drummondville qui dit « ben là, ça suffit, là. Nous aussi, on a besoin d'air. Il faut qu'on recommence. » Faut nous laisser un petit peu plus de cordes pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir travailler. Surtout au moment où, vous l'avez vu, au-delà du... Il y a le virus, puis au-delà de ça, bien, il y a toutes ces manifestations à la suite de l'affaire du meurtre de l'Afro-Américain George Floyd. Profondément troublant. On s'en est parlé, vous et moi, hier, puis vous avez été très nombreux à continuer de m'écrire encore jusqu'à ce matin là-dessus. Et c'est important de le faire, puis se dire qu'on est tous solidaires dans cette cause avec nos frères et nos sœurs de couleur, qu'on est tous des humains. Mais bref, tout ça pour dire que au-delà de ce virus, il y a également les manifestations qui ont touché beaucoup de commerçants, en particulier à Montréal. Quand on voit que des vitres brisées, ils venaient de rouvrir leurs portes là sur la rue Sainte-Catherine il y a quelques jours, puis bang, on va te garrocher des briques dans ta vitre pour te voler. Il y a quelque chose là-dedans que je trouve profondément, d'abord, qui est inacceptable, puis qui est pas humain, qui, sincèrement, c'est des sauvages. On l'a dit, mais je pense qu'il faut le redire. Alors, notre question en première heure d'émission, je vous la pose tout de suite, puis on va tout de suite parler au docteur François Marquis pour voir ce qu'il en pense. Mais jusqu'à quel point respectez-vous les règles sanitaires? Avez-vous commencé à, entre guillemets, slacker un peu, à dire, bon, écoute, on en prend puis on en laisse. Je vous dis souvent que le gros bon sens, c'est souvent ce qui marche mieux. Est-ce que vous l'appliquez le 2 mètres? Est-ce que vous le tenez encore? Le masque, est-ce que vous le portez? On sait que c'est pas populaire, le masque. La distanciation l'est un peu plus, mais on voit aussi ici et là que les gens l'ont comme un peu abandonné. Alors, dites-moi comment vous voyez ça. Appelez-moi au 514-790-9850. Et de l'extérieur, j'en profite pour saluer tous les gens des régions qui nous écoutent sur le réseau Cogeco, ben vous faites le 1-866-790-9850. Docteur François Marquis, chef de service aux soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, bonjour.
Bonjour.
Comment ça se passe à l'hôpital, docteur Marquis?
Bien, du côté là, des arrivées de patients COVID, effectivement, un peu comme partout, là, on a noté une baisse importante, ce qui ne veut pas dire qu'il y a pas qu'on n'en a plus, là. Quand on dit une baisse importante, ça veut dire qu'il en rentre quand même, mais c'est pas mal plus sous contrôle. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est surtout de s'assurer qu'il n'y ait pas de nouvelles éclosions et de réaménager nos différents milieux de travail pour être capable de permettre la reprise là, des activités habituelles là, de l'hôpital de façon sécuritaire pour les autres patients. C'est qu'en fait, on est en pleine rénovation.
Ah oui, OK. Mais chez vous, toutefois, les règles sanitaires continuent d'être suivies à la
Si vous pensez que vos règles sont difficiles, venez vivre chez nous un peu.
Mais parlez-nous-en donc de ces règles-là, François Marquis. Ça permettra finalement de faire le tour de ce qui doit être suivi ou non.
Bon, nous autres, c'est assez simple, là. On va faire exception de la zone chaude, là, où on a les N95 et tout ça, mais dans l'hôpital, en général, Tout le monde se promène avec un masque. Tout le monde a une protection oculaire, que ce soit des lunettes de protection ou une visière. On se lave les mains à peu près 200 fois par jour. Mm. Quand il y a une file pour la cafétéria, il y a une distanciation sociale entre chaque personne de la file d'attente, ce qui fait des files d'attente qui font presque un kilomètre, là, ça n'a pas de sens. Personne ou presque mange à la cafétéria. Les gens vont s'isoler dans toutes sortes de petits coins pour manger. Il n'y a pas de réunion qui se font, à moins que ce soit dans des grandes salles avec des de l'espace entre chaque personne. C'est vraiment un peu despotique, là, je veux dire. Nous autres, on le fait encore, mais c'est... Et l'hôpital, les étages sont séparés en des étages chauds, tièdes, froids, et on a un nouveau concept qui s'appelle les étages ultra-froids, où là, même le personnel est testé, les docteurs qui s'occupent des patients ont tous été dépistés avant de se présenter à l'étage. On limite au maximum les contacts là avec d'autres médecins ou avec des membres de personnel. On fait comme des îlots à l'intérieur de l'hôpital. Donc, on est même à un niveau là de prévention là qui est de loin plus grand que ce qu'on demande à n'importe qui dans la population.
Ben oui, mais t'as utilisé le mot despotique, genre autoritaire là. C'est des règles autoritaires, mais donc
c'est pas négociable là.
OK.
Il y a des gardes de sécurité, là. Je veux dire, je mets au défi n'importe qui à la cafétéria de pas suivre les règles. Ils vont juste se faire sortir de la file, là.
Gentiment, j'espère, quand même.
Honnêtement, la plupart du temps, très gentiment, c'est certain, comme dans... Il y a eu des petits dérapages à un moment donné, mais il y a des gardes de sécurité qui étaient... Ben, c'est comme dans tout dans la vie, hein. Il y en a qui sont plus doués pour leur travail que d'autres. Mais là, ça va très bien. Au début de la crise, c'était pas toujours gentil.
Là, je dois dire que... Des fois, moins t'as de pouvoir, plus tu veux l'exercer.
Ouais. Mais là, je dirais qu'on a un équilibre. Les gens font pas exprès non plus, là. Je veux dire, à un moment donné, les gens du système de santé, on est les premiers à avoir vu les ravages, puis avoir vu des gens mourir. Puis nous, on n'a pas besoin de se faire convaincre qu'on peut avoir 30 ans et mourir d'un COVID. Je disais que les gens ont aussi compris que l'endroit le plus sécuritaire, c'était l'hôpital. Moi, personnellement, j'ai beaucoup plus d'inquiétude d'attraper le COVID à l'extérieur de l'hôpital que dans l'hôpital. Dans l'hôpital, j'ai jamais vu un endroit aussi... On dit tout le temps que les hôpitaux, c'est là qu'on attrape les maladies contagieuses, avec une certaine part de vérité. Mm-hmm. Mais là, je peux dire que j'ai jamais vu mon hôpital aussi propre, j'ai jamais vu autant de gens faire attention. Je veux dire, d'un point de vue de santé publique locale, c'est une réussite. Là,
C'est rassurant, parce qu'il y a beaucoup de gens encore qui se posent la question, est-ce que risqué d'aller à l'hôpital ou non?
Non, puis on a contrôlé nos éclosions. Puis tu sais, comme on s'est dit, là, les éclosions, ça prenait, quand tu avais une éclosion, ça prend 28 jours avant de perdre le statut d'éclosion, même si tu n'as plus de cas depuis 20 jours. Là, c'est en train de se régler. Le travail a été fait extrêmement sérieusement dans les hôpitaux et particulièrement dans mon hôpital. C'est certain là qu'il y a eu des petites brèches puis que le virus s'est promené, mais c'est ça qui est important et c'est ce qui nous ramène à notre question d'aujourd'hui. À partir de là, c'est une question d'observer et de s'assurer qu'on détecte chaque éclosion, chaque cas est documenté. Nous, on a des gens ici à l'hôpital là que quand il y a un cas qui est documenté, ils font à rebours tous les contacts qu'il y a eu dans l'hôpital, qui a passé à côté de qui, c'était qui le personnel. Tout ce travail-là, un peu Sherlock Holmes, est fait dans le but, d'après ça, d'aller surveiller est-ce que monsieur un tel ou madame une telle, qui ont potentiellement été en contact avec ce patient-là, vont développer des symptômes, on va les tester. Donc, on est en mode surveillance et les gens doivent comprendre que le Québec doit rentrer en mode surveillance et que ça va demander... Peu importe la stratégie de déconfinement, c'est ça qu'il faut comprendre. Le virus, il s'en fout des règles. OK? Et là, il y a des gens qui vont faire des règles parce qu'il faut avoir une stratégie, il faut prendre des décisions. Et là, le virus va regarder ça, lui, ben, de façon non intelligente. Lui, il fait juste réagir aux opportunités. Mais il va essayer de se faufiler. Et il va réussir à se faufiler. Qui dit déconfinement dit qu'il va avoir une augmentation des cas. Mais là, augmentation des cas, ça ne veut pas dire deuxième vague automatique, ça ne veut pas dire recrudescence de la pandémie. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va avoir des cas épisodiques. Et ces cas-là doivent être rapidement identifiés et contrôlés. Maintenant, plus on déconfine, comment je pourrais dire, agressivement ou permissivement, plus ça nous fait de monde à surveiller. Hein? Et c'est ça l'idée. C'est qu'au début, on a caché tout le monde dans leur sous-sol, là, puis on leur a dit, vous bougez pas, parce qu'on doit prendre le contrôle de la situation. Bon, là, on a le contrôle de la situation. Là, on dit aux gens de commencer à sortir. Si on enlevait toutes les règles d'un coup, bien, ça va faire plusieurs îlots où il va y avoir des recrudescences, et ça fait une stratégie de surveillance beaucoup plus complexe. Alors, vous comprenez que si j'ai une personne qui rencontre 10 personnes et que cette personne-là est infectée, moi, de la santé publique, j'ai 10 personnes à retrouver puis à suivre. Si cette personne-là était dans une salle de spectacle de 1000 personnes, c'est certain qu'une personne ne peut pas contaminer 1000 personnes d'un coup, mais il a côtoyé qui? C'était qui ses voisins dans la salle? C'était qui? Par quelle entrée il est passé? Il a pris quel système de transport? Ça fait rapidement, dès qu'on permet à des gros groupes de se rencontrer, bien, ça fait en sorte que la surveillance devient plus difficile.
Mmh. Mais c'est vrai, François, avec n'importe quoi. C'est vrai que la H1N1, tu es dans un avion, puis il y a tout le temps quelqu'un qui tousse, puis tu prends le risque d'attraper quelque chose. Pareil, quand
Exactement.
Tu sors.
Et ce n'est qu'une gestion de risque et de conséquences. Et il n'y a pas de bonnes règles, il n'y a pas de mauvaises règles, il n'y a pas de bon déconfinement, il n'y a pas de mauvais déconfinement. Il n'y a que des conséquences.
Voilà. On va s'arrêter ici. On va parler. Toutes nos lignes sont pleines là-dessus. Je vais vraiment donner la parole aux auditeurs parce que je veux savoir comment vous voyez ça aujourd'hui. Je veux dire, ça déconfine quand même pas mal ailleurs. On parle de même retour à une vie presque normale en France où les gens vont pouvoir aller prendre un café, un verre sur une terrasse. Les musées rouvrent. Même le musée du Vatican, d'après ce que j'ai vu, va rouvrir. Il y a vraiment comme un semblant de ça repart en grand. Puis sincèrement, même en Europe, on parle d'ouvrir les frontières entre les pays de la communauté européenne. Donc, est-ce que même vous pourriez être tenté de partir en voyage, puis d'aller en France cet été, par exemple, ceux qui avaient ce projet-là? C'est sûr qu'il y a des règles.
On n'a pas de vacances.
Non, ben non, toi non. Non, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui remettent leur plan de vacances en question. Mais je veux dire, à partir du moment où on déconfine comme ça, jusqu'à quel point, je pose la question aux auditeurs, vous respectez les règles sanitaires? Est-ce que vous en pas tenté un peu, là, puis vous vous arrangez comme ça? 514-790-9850 et de l'extérieur, vous faites le 1-866-790-9850. Alors, je vous pose la question, jusqu'à quel point respectez-vous les règles sanitaires en ces temps de déconfinement un peu partout sur la planète? D'ailleurs, je vous parle du cas de la France, où à partir d'aujourd'hui, une grande partie des restrictions qui ont été imposées aux Français a été levée. Puis là, on se rend compte même qu'on va lever probablement les barrières également des pays là-bas dans la communauté économique européenne. On parle d'un retour à une vie presque normale où les cafés, les terrasses, les restaurants vont rouvrir. Joanne, comment vous voyez ça, vous, ici au Québec? Est-ce que vous avez vous-même un peu relâché votre attitude, votre comportement par rapport à ce qu'on dit en termes de distanciation, de masque, de lavage de main, par exemple?
Premièrement, oui, effectivement, mais je vais vous expliquer, dans mon cas, on est des milliards de triards de bactéries. Nous sommes faits de bactéries. Et moi, je crois, avec tout le monde en médical qui est autour de moi et en famille, que je crois que, sincèrement, nous devons nous immuniser. Et notre microbiote qu'on appelle, là,
ouais,
au santé, une bonne alimentation, je crois que nous pouvons être immunisés parce que j'ai été en contact avec plusieurs personnes, j'ai rien eu. Mm-hmm. Donc, ça touche certaines personnes très malades et on dit que c'est une thrombose vasculaire et non une pneumonie, d'ailleurs, parce que j'ai une filleule qui travaille au niveau des masques à travers le Québec et qui me dit les respirateurs ne sont pas là-dedans.
Mais donc, vous avez relâché un peu, Joanne?
Moi, ce que j'ai fait, c'est que quand j'étais dans le milieu, mettons que je devais amener quelqu'un à l'hôpital, c'est certain que je faisais très attention à l'époque. Mais depuis un mois, j'ai tout relâché, même le six pieds, j'avoue. Et elle m'a expliqué, les gens qui sont autour de moi en médical me disent, le six pieds dehors ne vaut absolument rien à l'instant. Et le masque, il faut qu'il y ait un charbon de chaque côté pour qu'il soit efficace. Tous les masques chinois sont même dangereux parce qu'on respire le CO2 qui nous intoxique le sang à longue. Les maux de tête, quand on a des maux de tête, c'est des signes qu'on est en train de s'intoxiquer. Est-ce qu'on veut baisser le système immunitaire? Non. Donc, okay. Je considère que pour l'instant, moi, je vis simplement, je n'ai pas peur du tout parce qu'il faut cesser ça aussi. Et puis, je pense que si la France déconfine, c'est un signe en quelque part que là, ils ont peut-être compris un message. Et puis, les gens commencent à être saturés aussi là, parce qu'il faut revenir à la normale.
Ouais.
Mais je comprends aussi François qui parlait avant moi. Je peux comprendre, mais de là à dire « Ah, il faut savoir combien il y a de monde autour de toi qui ont fait... » Non, moi, je rentre pas là-dedans parce que pour une raison, c'est qu'on doit s'immuniser, on est responsable de soi. Et dans un cas où on a une bonne nutrition, on est en santé, premièrement, là, quand tu tombes malade, là, c'est pas assuré que tu meurs, là. Tu vas peut-être avoir des symptômes de grippale pendant 5 jours.
Mais vous avez raison, Joanne, de dire qu'il y en a qui l'ont à différents degrés, effectivement. J'aime bien ce que vous dites aussi, cesser la peur. C'est vrai que la peur est jamais bonne, ni conseillère, ni bonne à nourrir, parce qu'elle crée beaucoup de problèmes de santé mentale, entre autres. On a beaucoup parlé de la santé mentale en temps de COVID, puis c'est important de garder le moral. Puis à un moment donné, c'est sûr que les gens, avec l'arrivée du beau temps, ont envie d'aller prendre un café sur une terrasse. Il y a Luc qui m'écrit « La Suisse est déconfinée complètement depuis longtemps, aucun problème, et la Suède n'a pas plus de cas vraiment que le Québec et n'a jamais été confinée. » C'est vrai que ça fait réfléchir. On a Suzanne qui est avec nous. Bonjour Suzanne, est-ce que vous avez relâché un peu, vous, les règles sanitaires?
Pas du tout.
Non?
Et je ne les relâcherai pas non plus. Moi, je crois plutôt que... Malheureusement, là, je fais partie de ceux qui pensent qu'on déconfine trop vite au Québec. Fait que moi, j'ai le masque, les lavages de mains, c'est comme le médecin disait tantôt, c'est 200 fois par jour.
Ouais.
Puis moi, je suis retraitée, mais j'ai travaillé pendant 41 ans dans un hôpital. Et oui, effectivement, oui, c'est un lieu où il disait qu'on rentrait pas pire malade, mais on sortait très malade. Là, j'y ai pas retourné et j'y retournerai pas.
Mm-hmm.
Parce que cette maladie-là, elle est hypocrite, invisible, puis elle me fait terriblement peur. Et je fais partie de ceux qui trouvent que ça déconfine trop vite, puis d'accord, je ne le relâcherai rien.
Merci beaucoup, Suzanne, c'est très clair. Georges, bonjour.
Moi, là, je lâche rien.
Parfait.
Lavage de main, les gants, le masque, parce que moi, je veux pas passer l'été dans la maison. Parce que moi, je suis un bipolaire, ça me tente pas, j'ai besoin de vitamine D.
Ouais.
C'est pas un cadeau.
Non, c'est
là,
ça.
La madame, là, tout à l'heure, là, qui comptait toutes sortes de peurs.
Joanne, oui.
Parce qu'elle, elle veut passer l'été dans sa maison.
Merci.
Dans l'air climatisé.
Oui, c'est ça. Vous craignez la deuxième vague là, dont on parle, genre.
Ah, là, le docteur, là, qui comment ça s'appelle? Là,
docteur François Marquis, qui est avec nous, oui.
Le portugais.
Non, ah oui, docteur Arruda, oui. Le directeur de la santé publique du Québec, oui.
Si 10% de la des Québécois sont délinquants, on s'en va tout à la maison au mois de juillet.
Oui, c'est ce qu'il a dit, effectivement. Vous avez bien compris. Alors, merci, Georges. Merci beaucoup.
On a trop de délinquants, quoi.
Merci. Merci bien. Antoine, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Antoine. Avez-vous envie, vous, de vous déconfiner et surtout, avez-vous envie de relâcher un peu? Parce que quand on voit ce qui se passe ailleurs, on pourrait tenter de le faire. Je dis, bon, moi, ceux qui m'écrivent que je fais la promotion, c'est pas mon idée, là. C'est une question que je pose. Je veux savoir où vous en êtes, tout le monde.
Mais ça fait très longtemps que j'ai envie de déconfiner.
Ben oui.
Bon, premièrement, j'ai vécu une expérience vendredi. Et j'ai amené ma copine faire l'épicerie, que j'ai pas le droit de rencontrer normalement. Et en arrivant là-bas, le centre d'achat était fermé, mais l'épicerie était ouverte. Et elle avait vraiment envie d'aller à la toilette. Elle ne pouvait plus, elle était même plus capable de marcher.
Mm-hmm. Ouais.
Et les gardiens de sécurité l'ont empêchée d'aller à la toilette.
Oui, oui, je sais.
Je trouve
ouais.
ça. Mm. Les gens ne sont même pas humains.
Mm.
C'est comme l'information qu'ils reçoivent, c'est la sécurité avant tout. Même si quelqu'un est en train de crever, c'est pas grave, mais il faut respecter la loi. Il n'y a plus de logique.
Oui, ouais, merci.
Ça, je trouve ça très triste.
Mm-hmm. Merci.
Il faudrait qu'au moins quelqu'un puisse dire « soyez logique dans certaines situations ».
Oui, effectivement. Merci beaucoup, Antoine. Lise, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, je suis une personne âgée et évidemment, j'ai peur. Je demeure chez moi. Je vais prendre ma marche à tous les jours, mais la minute que j'essaie d'aller dans un magasin, oubliez ça, car on ne respecte pas les consignes. Mmh. Alors, quand on dit fortement, on recommande fortement le masque, c'est pas suffisant. Alors, si on veut vraiment déconfiner et on veut que les gens ne l'attrapent pas, faut obliger le masque pour tout le monde. Sinon, c'est impossible. Je pense qu'on veut vraiment que tout le monde l'attrape. C'est ça que je vois. Ouais. De cette, la façon que, le déconfinement de cette façon-là, là, ça n'a aucun sens. Donc, c'est parce qu'on veut que les gens soient immunisés. Là,
collectivement, de... voilà.
Oui, et, ouais. C'est ça. Merci. Je ne vois pas autre raison parce Merci. Que ça n'a aucun sens.
Merci, Lise. Je vais demander au Dr. François Marquis de réagir à tous les commentaires des auditeurs jusqu'à maintenant. François, on a parlé de beaucoup de choses. On est allé du microbiote à l'immunité collective. La vérité et tendre tout ça, j'imagine?
Bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens pensent à leur propre risque individuel, puis c'est correct. Nous, on doit aussi penser au risque collectif et à des sous-groupes. Hein? Donc, on a des gens qu'on doit s'assurer que le virus va épargner. Et c'est certain là qu'il y a tout le temps des gens pour nous pointer certains endroits, certains pays où il n'y a eu aucun déconfinement, en nous disant « regardez ». Mais nous, même pendant le confinement, on a quand même eu des gens vulnérables qui sont faits pour, hein, on va le dire, ramasser par la COVID. Et donc, nous, on a aussi à balancer le risque collectif du risque individuel. L'autre chose qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a une quantité assez impressionnante d'informations et de désinformations et ça amène pas les gens non plus à faciliter leur prise de décision quand ils se font dire une chose et son contraire dans la même journée. Et un autre point qui est important aussi à travers ça, c'est que beaucoup des changements dans notre vie qui vont être, j'espère, un changement durable. Là, je parle pas là, de la distance sociale ou des enfants de même, je parle du lavage de main. Et les endroits publics où on parlait par exemple des dentistes là, qui vont avoir besoin d'avoir plus d'échanges d'air dans les bureaux et tout ça, ça, il faut comprendre que ça va être des acquis qui vont rester et qui vont être utiles contre l'influenza, qui vont être utiles contre d'autres virus respiratoires. Et donc, il y a des changements que s'ils sont intégrés à notre routine, ben de façon chronique, on va avoir des bénéfices pour notre population. Peut-être que la prochaine saison de la grippe va être meilleure parce qu'on a fait massivement de l'enseignement aux gens sur se laver les mains, sur de faire attention de ne pas contaminer les autres. On a eu une immense pratique générale de quoi faire en cas de n'importe quel virus respiratoire.
Ah oui, là, je pense qu'effectivement, François, qu'on est allé à la guerre, là. On a l'expérience, en tout cas, de ça. Je vais arrêter ici. Docteur Marquis va rester avec nous. On aura l'occasion de lui reparler. Va se joindre à nous également Steve Tremblay, consultant santé et sécurité au travail, parce que la question du travail aussi est importante dans toute notre discussion. C'est sûr qu'on a été les champions nord-américains du confinement, nous, ici, au Québec. Ça a été assez sévère, Hawaï à maison. Mais là, depuis qu'on déconfine, on voit, là, puis on le sait ça grâce à des données de géolocalisation cellulaire qui ont été compilées par Google, entre autres, puis qui montrent que les Québécois sont maintenant pas mal moins confinés, même qu'ailleurs. Alors, ça a l'air qu'on n'a pas attendu qu'on nous dise « vous pouvez sortir et faire ce que vous voulez ». Ça a l'air que c'est déjà pas mal ça. Mais comme nous le disait le docteur Marquis avec grande justesse, il ne faut pas penser qu'à soi puis à son nombril. Il faut penser aussi à l'autre à côté. Peut-être que toi, tu ne portes pas ton masque, mais peut-être que tu devrais le faire pour ton prochain. T'sais, mais ça, c'est une mentalité à développer, penser à l'autre. On s'arrête ici, on va à la pause. Beaucoup, beaucoup de réactions par rapport à ce que nous disait tout à l'heure notre première auditrice, Joanne, là, avec le microbiote, avec l'immunisation et le fait que finalement, elle ne croyait pas à ça, là, le fait qu'on soit en mode surveillance, comme nous le disait le docteur François Marquis, que c'était important de rechercher les contacts de quelqu'un qui aurait, par exemple, été infecté et été en contact avec d'autres. En même temps, il y a toute la question de l'immunité collective dont on pourrait parler. Il y a Marie-Claude qui est avec nous. Bonjour, Marie-Claude.
Bonjour Isabelle.
Est-ce que vous avez été tentée de relâcher légèrement sur les règles sanitaires?
Pas du tout.
Non?
Aucunement. Certains diront, ça fait déjà plus de 2 mois et demi, là on est tanné. Moi je dis, ça fait seulement 2 mois et demi. Parce que pour aider les gens, je demanderai aux auditeurs juste de se mettre dans la peau d'une personne qui a une maladie chronique.
Mm-hmm.
On doit combattre jour après jour. Si on relâche un peu pour tricher ou tout ça, on en subit les conséquences par la suite par rapport à notre état physique.
C'est sûr.
Donc, je me dis, 2 mois et demi, 3 mois, 4 mois, c'est quoi dans une vie? Il y a des gens qui vont combattre ça pendant des années, des dizaines d'années. Donc, moi, ça m'encourage.
Et donc, vous faites, vous continuez de faire ce qu'on dit de faire. Merci beaucoup, Marie-Claude. On va justement aller rejoindre Steve Tremblay, il est consultant santé et sécurité au travail. Bonjour, Monsieur Tremblay.
Bonjour, Isabelle.
En matière de déconfinement, on voit là que ça, c'est presque un retour à la vie presque normale. En tout cas, si on se fie à ce que les Français vivent à partir d'aujourd'hui, réouverture des cafés, des restaurants, les collèges, les universités aussi, pas mal partout en France. Et pourtant, ils avaient comme nous été assez confinés solidement. On a vu aussi en Turquie, en Angleterre, un peu partout finalement sur la planète, il y a comme ce retour à une vie qu'on dit vouloir être le plus normale possible malgré la COVID. Comment vous voyez ça pour nous? Est-ce que c'est normal, Steve Tremblay, que les gens aient envie de relâcher les règles?
L'être humain, pour l'être humain, c'est tout à fait normal, mais il faut faire très attention dans votre observation de ce que vous dites, Isabelle. La France, c'était les règles les plus strictes en Europe. Pour pouvoir sortir de chez vous durant le confinement, ça prenait un permis par la police pour
sortir. C'est vrai. Vous avez raison.
Sinon, vous ne sortiez pas. Mm-hmm. Puis allez voir les règles pour le déconfinement, la réouverture des bars, des restaurants aujourd'hui, là, c'est très, très sévère. Puis je peux vous assurer que eux, les rassemblements comme on a eu à Montréal en fin de semaine, là, les amendes, les polices, ils auraient été full pin dans la rue pour les donner. Là. Ils le font respecter à la lettre. Ici, au Québec, vous parliez tantôt de Google.
Ouais.
Au mois de mars, quand on a commencé le confinement, François Legault, il se pétait les bretelles en disant « On a le meilleur taux de participation du respect des règles au Québec dans tous les États de l'Amérique du Nord, selon Google. » Moi, j'ai dit « Faites attention, les gens ne respectaient pas les règles parce que M. Legault l'avait demandé. Les gens respectaient les règles, Isabelle, parce qu'on se gelait les fesses dehors. Il faisait pas beau. » Dès qu'il y a eu les 20 premiers degrés, dès qu'il y a eu les 20 premiers degrés là, fin avril début mai là, c'était épouvantable à voir. Et avec le déconfinement, je pense que dans la société, le message que ça a envoyé, c'est il n'y en a plus de problème, allez-y.
Ouais.
Permettre des regroupements de 10 personnes, ça n'aurait pas dû exister. On aurait dû commencer avec des rassemblements de 4 personnes pour commencer, créer l'habitude, puis d'y aller petit, pas à pas.
Mm-hmm.
C'est pas ça qui se passe actuellement. Je peux vous dire déjà, Isabelle, qu'avant la fin juin, Legault va devoir reculer, puis la santé publique aussi.
Ah, vous pensez?
Que,
ah ouais.
Je ne pense pas, je le constate. Ça tousse beaucoup dans les milieux de travail. Hier, c'est passé presque sous silence. Monsieur le docteur Arruda le dit à la vitesse éclair que personne n'a pris la peine de relever ça. Il y a eu 40 cas de contamination dans les écoles à l'extérieur, dans tous les endroits où c'est ouvert. Là, on a déjà rendu à plus de 40 cas dans les écoles de contamination. Puis il commence à y avoir des foyers d'infection un peu partout dans les régions. De la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus qu'à l'habituel. Fait que je vous dis, on est allé beaucoup trop vite. Les gens pensent, parce qu'il fait beau avec la canicule qu'on a eue la semaine passée, là, la plage de Verdun, c'était noir de monde. Je vous le dis, vous allez voir qu'à d'ici la fin juin, je pense qu'on va reculer. On n'aura pas le choix.
Oui, mais il y a quand même aussi, il y a l'économie. Là. J'entends les gens là, qui doivent sans doute réagir à ce que vous dites, Steve Tremblay, puis qui disent, ouais, mais c'est bien beau, il faut qu'on reprenne, faut qu'on soit capable de travailler. Là, j'entendais le restaurateur ce matin là, qui est prêt à défier les règles, ouvrir sa terrasse à Drummondville. Là.
Il est là le problème. Il est là le problème. Moi, j'ai pas de problème pour l'économie, Isabelle.
Il dit, on est tous écœurés, je comprends. Là.
Bon, ben c'est ça le problème. C'est que les gens sont tellement écœurés qu'il n'y en a plus de règles tout d'un coup. Là. Puis à cause de cette façon de penser-là, à cause de ce comportement-là, on va devoir reculer. Puis on n'a pas besoin d'aller très loin. Là. Regardons rien que depuis les 2 dernières semaines, là, le comportement général des gens. Aller dans les commerces, même les gens qui portent des masques, ils respectent même pas les règles. C'est pas parce que t'as un masque dans la figure que ça te permet de t'approcher puis d'embarquer sur les autres, là. La distance de 2 mètres, faut toujours la respecter. Faut continuer de se laver les mains. Ça a pas relâché, ça.
Mais là où je comprends que certains peuvent être frustrés, Steve, c'est que, puis je cite ce restaurateur de Drummondville, là, qui dit, moi, je me demande vraiment ce qui est pire. Est-ce que manger à une table de pique-nique à 2 mètres de distance, quand on a désinfecté la table avant puis qu'on s'assure, donc, que les convives puis que nos clients de restaurants suivent les règles, ou 200 personnes qui vont se lancer dans une cacaillerie la fin de semaine. Je comprends ce qu'il veut dire.
Il a raison.
Ben, oui. Il y a des gens, des commerçants qui disent, ben moi, je suis pénalisé alors que c'est comme les coiffeurs de région versus ceux de Montréal.
Absolument, absolument. Puis le fait que les gens ne respectent pas ça, imaginez-vous quand ça va réouvrir, les restaurants, les bars, tout ça. Imaginez-vous quand les gens vont avoir un verre dans le nez, Isabelle.
Ouais.
Je peux vous dire que à jeun, ça les respecte pas. Imaginez-vous d'un restaurant, à la fin d'un repas, qu'une bouteille de vin, on est plus joyeux. D'un bar,
on n'arrête pas de nous dire que l'alcool, ça désinfecte, par exemple.
Ouais, mais malheureusement, je pense que
ceci est une blague. Blague, je tiens à le préciser. Il faut rire, malgré tout. J'aimerais entendre Dr. Marquis là-dessus, François. Là. Est-ce que Steve Tremblay nous fait un portrait trop sombre de la situation, d'après toi?
Non, en fait, je pense que c'est relativement ce qui risque d'arriver, parce qu'il faut comprendre que là, il y a des gens qui, effectivement, suite au super beau temps qu'on a eu, là, je pense que l'été a duré 3 jours, là, mais on a eu quand même des très belles journées, et il faut comprendre que là, le virus va en avoir profité, on a eu des manifestations, le virus va en profiter, et ça va incuber. Et c'est dans une semaine et demie, 2 semaines qu'on va le voir. Et donc, faut rester vraiment à l'affût. Et là, on en avait déjà parlé de ça, mais les règles de confinement, c'est dans leur nature quelque chose de coercitif et d'inégal. Et quand les gens disent « Oui, mais c'est pas correct parce que mon voisin, lui, il a le droit de travailler, puis moi, j'ai pas le droit de travailler, puis il est pas mieux que moi, donc moi, je vais travailler », eh bien, quand on fait un raisonnement comme ça, il faut comprendre qu'il va avoir des conséquences à ça, puis qu'on va vivre avec ces conséquences-là. Et que quand les gens vont dire « Oui, mais là, moi, j'ai triché parce que j'ai des bonnes raisons. » Mais c'est correct, bravo, t'as triché parce que t'avais des bonnes raisons. Mais socialement, si on mange une pelle à cause de ça, ça va être à cause de toutes les petites exceptions individuelles, et c'est ça qui va s'additionner, puis qu'à un moment donné, fait que ça peut déraper. Et c'est pas parce que dans certains pays, qu'étrangement, ça n'a pas si dérapé que ça parce qu'ils n'ont pas confiné et tout ça, c'est pas un gage de sécurité pour nous autres. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Peut-être qu'il ne se passera rien, qu'on va se déconfiner massif. Ça, j'en doute qu'il ne se passera rien. Mais le fait est qu'on ne peut pas toujours le prévoir. Et effectivement, les régions ont été épargnées. Tant mieux pour eux autres. Mais ça ne veut pas dire que c'est une assurance qu'il ne peut rien arriver en région. Et moi, j'ai ma prétention de dire que je pense que Montréal a fait une bonne job de ne pas contaminer le reste du Québec, de garder ça sur l'île.
Mm-hmm.
Mais ça peut changer facilement. Et si les gens décident d'aller faire des grandes tournées du Québec, le virus va certainement faire du pouce puis se promener. Et il n'y a rien comme une bonne longue balade en voiture avec 3 ou 4 personnes pour être certain que s'il y a quelqu'un qui est positif dans la voiture, que tout le monde va l'être à la fin de la journée. Mmh. Maintenant...
Mais le pire dans tout ça, Isabelle, oui. Le docteur Marquis, quand on regarde ça, là, confinement, c'est un bien grand mot, mais on n'était pas si malheureux que ça. Là.
Ben non.
On pouvait aller faire l'épicerie quand on voulait, on pouvait aller à la pharmacie quand on voulait, on pouvait aller marcher librement comme on voulait. Ça, c'est pas si pire que ça. On n'était pas renfermé à tâcher à la patte du poil de personne, là.
Mm.
Sauf que quand ça va être le temps de reconfiner, fin juin, début juillet, avec la belle saison qui s'en vient, vous allez voir que reconfiner une population, ça va être bien difficile. Puis soyons pas surpris que ça prenne des moyens bien plus fort que qu'est-ce qu'on a connu jusqu'à maintenant.
Ouais. Pour mais à la décharge quand même, parce que là, si vous avez dit on n'était pas attaché à la patte du poil personne, je pense que là, soudainement, là, je vais recevoir plein de gens qui sont des couples, qui vivent pas ensemble, puis qui, depuis 3 mois, disent on aimerait beaucoup pouvoir être capable de se voir. Et c'est là où c'est intéressant,
ils
notre question de... Oui, ben c'est ça.
À 2 mètres, ouais. Ils peuvent le faire. Ça n'a jamais été empêché, ça. Puis il n'y a personne qui
mais disons qu'à 2 mètres, quand tu es en couple, ça fait pas des enfants forts. Mais bon,
ouais, mais peut-être que ça peut faire durer le couple plus longtemps aussi.
Oui, mais bon, on va aller à la pause là-dessus. On revient tout de suite après. Restez là, tout le monde. Alors, je vous pose la question, êtes-vous un peu tenté de relâcher sur les règles sanitaires? On a Daniel qui est avec nous.
Bonjour, Mme Maréchal.
Bonjour, Daniel.
Moi, je vais juste commencer par une question, M. Marquis. Qu'est-ce qui fait peut-être que les gens déconfinent? Des fois, c'est peut-être les pourcentages. On regarde tous les docteurs et les infirmières qui travaillent en plein dans la pandémie. On n'a jamais donné un pourcentage de combien de ces gens-là ils ont été vraiment affectés. On avait tout le temps les pourcentages des gens de la société, mais jamais ceux qui étaient en pleine dent. Ça
mais en fait, je peux répondre à votre question.
Allez-y, Dr. Marquis.
Sur les 150 membres de personnel de mon équipe de soins intensifs, il y en a 3 qui ont été contaminés. Là-dessus, il y en a 2 qu'on sait qui ont été contaminés à l'extérieur de l'hôpital.
Bon. Ben, regardez, là, moi, je parle des gens qui travaillent là-dedans quasiment 8, 10, 12 heures par jour.
C'est nous autres, ça.
Ouais. Moi, j'étais un personnage de 66 ans. Je fais partie un peu des vieux, puis moi, j'ai enseigné toute ma vie à des athlètes. Je connais au-dessus de 400-500 athlètes, puis on se tient au courant par l'Internet, puis ces choses-là. Il y a seulement une personne sur les autres qui avait 37 ans, puis il était malade pendant 3 jours. Il sentait comme s'il s'était fait battre à coups de bâton dans le corps.
Fait que vous, ce que vous dites, Daniel, là-dessus, c'est que finalement, c'est plus important de respecter autant les règles sanitaires. En fait, qu'elles soient un peu moins sévères, c'est ce que vous souhaitez?
Un peu moins sévères, je crois, pour les gens, parce que chaque personne, c'est individuel. Chaque personne peut être plus en santé, moins.
Ouais.
Quand on regarde tous les gens, moi, j'ai écouté tous les commentaires, j'ai suivi au côté québécois-américain. Tout le monde disait tout le temps, c'était les gens plus âgés, 80 ans et plus, problème de poumon, problème de diabète, problème de ci. On n'a jamais eu le pourcentage, on a eu quelques pourcentages plus bas. Puis c'est normal qu'il y ait des gens un peu plus jeunes qui ont eu, puis ont été malchanceux. C'est comme dans toute chose de la vie, avant que le microbe arrive, il y a des gens qui sont morts de grippe ou de choses de fièvre ou d'une pneumonie, qui n'ont pas pris soin, puis qui sont morts. Moi, je fais juste dire, si je crois que c'est un peu trop exagéré, les gens qui ont peur, moi, je respecte. Si tu as peur, reste chez toi, continue à suivre les choses, mais il faut laisser les gens vivre un peu.
Merci. Merci beaucoup, Daniel.
Isabelle.
Oui.
Isabelle.
Oui, c'est Steve Tremblay, oui.
Allez-y, oui. J'inviterai le monsieur à venir m'accompagner sur les étages COVID de l'hôpital juif. Là, on remarque de plus en plus que les gens sont de plus en plus jeunes. C'est plus vrai que c'est des gens de 65 ans et plus. Et cette fin de semaine, 5 membres de la même famille à l'hôpital. Le père de 44 ans est décédé. L'enfant de 20 ans est décédé. Puis les 3 autres sont sous respirateur actuellement. Et ce n'était pas des gens avec des problèmes de santé, de comorbidité. Là. Donc, de plus en plus, on en voit de plus en plus jeunes. Là, c'est plus vrai que c'est seulement...
On voit la même chose aussi à Maisonneuve-Rosemont. C'est certain qu'il y a toujours eu des jeunes de 20 ans qui ont des accidents d'auto ou des choses comme ça. Mais là, ici, on parle pas d'un accident, on parle de quelque chose qui est relativement évitable. Et c'est toute la grande question de... C'est quoi mon bien-être par rapport à ma responsabilité civile collective? Et je pense que ça, c'est souvent des réflexions qui sont normales que les gens vont avoir jusqu'à temps qu'ils ont quelqu'un dans leur famille ou qu'ils ont vu une partie de leur famille se faire décimer. Puis moi, je peux vous dire là que je reçois des appels de gens qui disent « OK, mon frère, ma sœur vient de l'attraper, il n'arrache. » Et là, tout d'un coup, ça devient beaucoup plus personnel. Et cette notion-là, c'est facile quand c'est un risque qui est théorique juste pour soi, mais quand on commence à voir ses proches se faire toucher, on revise souvent tout d'un coup notre position. Là. Ça devient beaucoup plus réel.
On a José.
J'ai des chiffres, Isabelle,
monsieur
se demandait.
Oui.
Dans le réseau de la santé, le personnel soignant, c'est près de 8000 personnes qui ont été soit contaminées ou en retrait préventif, en quarantaine par des cas contaminés. C'est beaucoup de monde.
Répète ça, Steve.
C'est près de 8000 employés dans tout le réseau de la santé. Puis ça a été confirmé par le docteur Arruda et la ministre McCann la semaine dernière. Mm-hmm. C'est près de 8000 personnes dans le réseau, soit qui l'ont attrapé ou qui ont eu un contact et qui ont dû se mettre en quarantaine à cause de ça. Ouais.
Non, mais c'est sûr. Je veux dire, tout le manque des préposés bénéficiaires, il y en a beaucoup. C'est parce qu'ils sont incapables de retourner travailler. Il y en a qui ont peur de se mettre à risque aussi. On manque de bras. Il y a toujours 10 000 personnes qui manquent. Donc, c'est clair qu'il y a... Il y a une partie de ces gens-là qui ont été malades, là, c'est clair.
Ce qui est particulier aux soins intensifs, c'est qu'on est tellement obsessif sur nos équipements de protection et nous, sachant qu'on travaille dans l'endroit le plus contaminé de l'hôpital, c'était un peu en réponse à dire, si vous faites les mesures, ça fonctionne. Maintenant, c'est vrai que sur les étages, puis quand on parle du personnel en général, moi, j'ai plusieurs collègues médecins qui l'ont attrapé. Mais aux soins intensifs, l'idée, c'est de dire... Quand on fait les mesures, parce que des fois, moi, je reçois le commentaire, vous avez même pas de preuve que vos mesures fonctionnent ou ça sert à rien, etc. Mais moi, je peux dire que 150 membres de personnel qui travaillent dans l'endroit le plus dangereux de l'hôpital, puis il y en a juste 3 qui l'ont attrapé, moi, je peux vous dire que les mesures fonctionnent. Ça, c'est certain que ça fonctionne. Mais c'est vrai que dans le système de santé, en général, on en a eu plein de membres de personnel qui ont été très malades, là.
Est-ce que c'est dangereux, vous pensez tous les deux, là, ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a cette opinion de plus en plus répandue dans la société? Je pense qu'on l'entend ce matin auprès de mes auditeurs. Là. Puis je ne juge pas, là, tout le monde a le droit à son opinion là-dessus. Mais en même temps, bon, on disait, on a beaucoup répété au cours des dernières semaines, ta liberté s'arrête ou commence celle de l'autre. Le docteur Marquis nous disait ce matin, il y a une question de pas juste penser à soi, penser aussi à l'autre. Est-ce que vous pensez que c'est risqué d'avoir ce genre d'attitude un peu au-dessus de ses affaires? François, peut-être?
On va s'en rendre compte assez vite, vous allez voir.
Ah ouais.
Ouais. Ça, c'est comme le port du masque. Les gens, ils pensent que c'est pour eux autres, mais c'est pour les autres que tu dois le porter, pas pour te protéger.
Mais
toi,
les gens ne le portent pas beaucoup, Steve. Les gens, on m'envoie des études, là, encore depuis les derniers jours. Là. On m'envoie des études pour me montrer que ça ne sert à rien, le masque.
C'est pas vrai. Quand deux personnes, Isabelle, OK, en santé, sécurité, travail, on le sait depuis le mois de février, ça, là, quand deux personnes ne le portent pas, s'il y a quelqu'un qui l'a, puis qui tousse, OK, à plus de 2 mètres, la possibilité de contamination est de 80 %. S'il y en a un des deux qui le porte, la contamination est à 50 %. Et si les deux le portent, on tombe à 1,5 %. Puis si, en plus de le porter, ils respectent le 2 mètres, on tombe à 0,5 %. Donc, oui, il y a un effet. Mais il faut le faire. Ouais. Si tout le monde prend ça à la légère, Isabelle, je vous le dis, checkez bien ça d'ici la fin juin, vous allez voir.
OK. Ben merci beaucoup, Steve.
On va en reparler, c'est sûr.
Merci, Steve Tremblay, consultant en santé et sécurité au travail. Docteur François Marquis, chef des services aux soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. François, il nous reste une minute. Est-ce qu'on peut peut-être reprendre les grandes règles?
Oui, ben en fait, hein, c'est de porter le masque, se laver les mains, se pas se taponner le visage. Je pense que c'est là que les gens diminuent l'efficacité de leur masque, respecter la distanciation sociale, prendre son mal en patience et se dire qu'on va passer à travers, mais que si on lâche là, il va y avoir des conséquences et qu'il va se devoir les assumer.
Voilà. Et le masque, évidemment, on le sait, c'est pas répandu et c'est pas choisi par la plupart des gens. Il y a encore beaucoup d'éducation, je pense, à faire là-dessus.
Oui.
Ouais. Le transport en commun, on n'est toujours pas obligatoire non plus. Et ça me paraît risqué. Mais bon, merci beaucoup, François Marquis. Toujours intéressant. Merci beaucoup. On va s'arrêter ici. Et après, les nouvelles, on va discuter des artistes. Est-ce que vous vous ennuyez de ceux qui vous amusent, normalement? Et puis, on aura le point de presse de François Legault qui est à 11h30 aujourd'hui.